Vous savez ce qui est assez bizarre ce matin? L'or est en train de monter. L'or monte de près de 2% après une annonce de paix entre les États-Unis et l'Iran. Après une annonce qui dit que le détroit d'Ormuz va rouvrir, que le pétrole va couler à flot et que la guerre est terminée. Normalement, l'or devrait baisser. Quand la géopolitique se détend, l'or baisse. Ça devrait être la règle. C'est comme ça qu'on nous apprenait à l'époque dans les écoles de bourse, sauf ce matin. Et ça, c'est un petit truc que personne ne regarde parce que tout le monde est occupé à regarder les futurs exploser. Ça vous dit pourtant tout ce qu'il y a besoin de savoir sur la réalité de cet accord de paix. On va parler de ça et de beaucoup d'autres choses absurdes qui se sont passées ce week-end. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le lundi 15 juin 2026 et je suis Thomas Veillet.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Oui, parce que ce week-end, il s'est passé quand même deux ou trois ou quatre choses majeures plus ou moins en même temps. Donc Trump a signé un accord de paix avec l'Iran le jour de son anniversaire. Elon Musk est devenu trillionnaire vendredi et Anthropic s'est fait retirer ses deux meilleurs modèles par le gouvernement américain deux jours avant de faire son roadshow pour son IPO. Tout ça en 72 heures. Donc on commence par le début. Trump a trouvé un accord de paix. On ne parle que de ça dans les médias ce matin. Un accord de paix avec l'Iran. Et cet accord a été annoncé le 14 juin. Oui. Le 14 juin, c'est l'anniversaire de Donald Trump, son 80e anniversaire. Ouais, c'est pas vraiment une coïncidence quand même, hein. C'est jamais une coïncidence avec Donald Trump. Cet homme aurait signé n'importe quoi hier soir. Une serviette de table, un menu de room service, la déclaration d'indépendance de la Lune ou de la planète Mars, du moment que ça tombait le 14 juin et qu'il pouvait poster sur Truth Social en majuscule que c'est lui. Lui qui a mis fin à la guerre le jour de ses 80 ans. Et vous savez quoi? Les marchés adorent. Les futurs S&P bondissent de plus de 1%. En Asie, c'est la fête au village. Le Nikkei prend 3,6%. Le Kospi, plus de 5%. Et le pétrole s'effondre de 5%. Le Brent est à 83$. Le WTI à 80. Le dollar recule. Les taux baissent légèrement. C'est magnifique. C'est aussi, si je compte bien, la 22e ou 23e fois depuis le début de cette guerre que les marchés explosent à la hausse sur l'espoir d'un accord. Sauf que cette fois, l'accord existe vraiment. Enfin, peut-être, en grande partie, si tout se passe comme prévu. Mais pour l'instant, il n'est pas signé. Et si personne ne fait de bêtises d'ici vendredi, il devrait être signé à Genève, normalement. Parce que l'accord, il n'est pas signé, c'est clair. Faut pas oublier, la signature officielle, c'est le 19 juin à Genève. Soit encore 5 jours pendant lesquels beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses peuvent très bien partir en vrille. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce deal? Le contenu officiel, c'est cessez-le-feu immédiat et permanent sur tous les fronts. Réouverture du détroit d'Ormuz, levée du blocus naval américain, dégel de 12 milliards de dollars d'avoirs iraniens bloqués à l'étranger et levée des sanctions pétrolières. C'est bien, c'est même très bien si tout se passe vraiment comme ça. Maintenant, voyons ce que l'accord ne contient pas. Le problème nucléaire iranien, par exemple, il n'est pas dans le texte. C'est 60 jours de négociations supplémentaires qui ont été ajoutées. Et ça va être super de négocier avec le détroit d'Ormuz qui est rouvert. Sans aucun levier, c'est toujours facile de négocier avec les Américains. Il y a aussi les missiles balistiques iraniens. Ils sont pas dans le texte. Le soutien de Téhéran ou Hezbollah ou Hamas, pas abordé dans le texte non plus. Donc la raison principale pour laquelle les États-Unis ont commencé cette guerre, le nucléaire, le terrorisme, le Hezbollah, c'est pas dans l'accord de paix qui est censé terminer cette guerre. C'est remis à plus tard, dans 60 jours. Comme si 60 jours allaient suffire à résoudre un problème que personne n'a réussi à régler depuis 20 ans. Et pour couronner le tout, j'adore ce détail, la télévision d'État iranienne a annoncé que l'Iran avait officiellement forcé l'ennemi américano-israélien à capituler et à mettre fin à la guerre. Pendant que Trump postait partout que c'était lui le génie qui avait tout arrangé. Deux pays, un document, deux victoires différentes quand même. Et puis alors il faut qu'on parle aussi de dimanche matin, parce que dimanche matin, pendant que Trump était en train de finaliser les derniers termes de l'accord de paix, l'armée israélienne a décidé que c'était le bon moment pour aller bombarder Beyrouth. Oui, vraiment. Trump a dû appeler Netanyahou en catastrophe pour lui dire d'arrêter tout de suite. Netanyahou a arrêté. Il a aussi précisé dans un tweet que ses troupes continueraient quand même leurs opérations au sud du Liban. Ça commence super bien, cette paix pas encore signée. Et le sénateur républicain Lindsey Graham, qui est un allié de Trump, a posté qu'il était quelque peu préoccupé par le fait que la version iranienne du deal semblait un peu différente de la version américaine. Ce qui est une façon très polie de dire que les deux parties n'ont peut-être pas signé la même chose. On appelle ça un cliffhanger géopolitique. Et c'est là qu'on revient au sujet de l'or, parce que c'est le signal le plus honnête de ce matin. Dans un trade de paix classique, je vous le disais, la géopolitique qui se détend, le risque qui diminue, les investisseurs vendent leurs actifs refuge. C'est une mécanique plus ou moins normale. Et ce matin, l'or monte de 2,3%. C'est pas un signe que les gérants sont idiots, c'est un signe que le marché ne croit pas complètement à cet accord. En tout cas, pas encore. Et l'or vous dit ce que les futurs ne vous disent pas ce matin. Un stratégiste l'a formulé clairement, hein. L'or devrait baisser dans un vrai trade risk-on, et s'il tient à les 4300, c'est que le marché traite encore ça comme une position de précaution. Et il a raison, la probabilité d'une hausse de taux de la Fed d'ici décembre est passée de 69 à 49% depuis l'annonce, c'est bien, mais 49% ça veut dire que presque la moitié du marché pense encore qu'on va avoir une hausse de taux avant la fin de l'année, avec une inflation à 4,2%. À moins que l'inflation se pète la figure parce que le pétrole va baisser depuis que le génie de Washington a signé la paix. Mais c'est pas la paix, c'est une armistice. L'armistice arrête les combats et la paix règle le conflit. Et là, il n'y a rien de réglé. Et quelque part, le marché, lui, il le sait. Parlons maintenant du deuxième grand sujet de la semaine. Mercredi, nous aurons la Fed. Kevin Warsh va tenir sa première conférence de presse comme président de la réserve fédérale américaine. Et personne, j'insiste sur le personne, ne sait vraiment ce qu'il va dire. Même lui, c'est pas sûr qu'il sache. Ce qui est remarquable, c'est que c'est l'homme le plus influent de la planète sur les marchés financiers mondiaux et on n'a aucune idée de sa position réelle sur les taux d'intérêt à l'heure actuelle. Ce qu'on sait, c'est que Warsh a fait campagne pour le poste de président de la Fed en promettant des baisses de taux. C'est ce que Trump voulait entendre. C'est la raison pour laquelle il a ce poste aujourd'hui. Mais ses collègues au FOMC, les autres gouverneurs de la Fed, eux, sont plutôt penchés vers des hausses de taux. 6 d'entre eux auraient d'ailleurs déjà intégré une hausse des taux dans leurs projections pour 2026. En mars, aucun membre du FOMC n'envisageait ça. Warsh est donc pris en étau entre ses promesses à Trump et une réalité macro qui lui dit l'opposé. Et là, vous me direz, oui, mais Thomas, avec l'accord de paix, le pétrole va baisser, l'inflation va se détendre, donc le problème, il est résolu. Oui, peut-être, sauf que le détroit ne sera pas pleinement opérationnel avant des semaines, que les tarifs douaniers sont toujours là et que l'inflation core, celle qui ne tient pas compte du pétrole, elle est toujours collante depuis des mois, pétrole ou pas pétrole. La conférence de presse de mercredi sera donc la plus regardée depuis bien longtemps. Notez-le dans votre agenda. Vendredi, on va revenir un peu sur vendredi parce que pendant que la planète retenait son souffle sur le sujet de l'Iran, SpaceX a fait son entrée en bourse. Alors on en a beaucoup parlé. Je vous en parle encore une dernière fois et après on passe à autre chose parce que on en a tous un tout petit peu ras-le-bol. Donc, 75 milliards de dollars levés, la plus grande IPO de l'histoire de l'humanité. Le titre ouvert à 150 dollars, 11% au-dessus du prix de 135 et a terminé à 160,95 plus 19,2% le premier jour. Capitalisation boursière de SpaceX, 2100 milliards de dollars. Et Elon Musk est donc officiellement le premier trillionnaire de l'histoire. J'ai largement abordé le sujet dans la vidéo du Swiss List de ce week-end. Donc trillionnaire, 1000 milliards de dollars. Le deuxième homme le plus riche de la planète, Larry Page, cofondateur de Google, est à 304 milliards. Ce qui veut dire que l'écart entre le premier et le second est plus grand que la fortune totale du second. Mais attendez, le meilleur c'est maintenant, parce que SpaceX donc se négocie à 112 fois son chiffre d'affaires annuel de 2025. Nvidia, que vous connaissez, celle dont on dit parfois qu'elle est un peu chère, eh bien se négocie à 20 fois son chiffre d'affaires. SpaceX est donc 5,6 fois plus cher que Nvidia. Cette valorisation implique que les colonies sur Mars, les data centers en orbite, les Starlink et autres intelligences artificielles vont tous fonctionner, générer des profits massifs dans un délai que le CEO lui-même estime entre 2035 et 2040. Et tout ça avec une exécution parfaite qui suppose l'absence totale du moindre problème. Un analyste a sorti une note vendredi avec un objectif de cours à 115 dollars et une recommandation « vendre ».
Le marché a lu la note et s'est rendu compte qu'il s'en foutait complètement et le titre a quand même clôturé à 160 $ et des poussières. Il faut noter que dans 15 jours environ, SpaceX pourrait rejoindre le Nasdaq 100 grâce à une règle d'entrée rapide pour les méga capitalisations. Ce qui voudrait dire que tous les fonds indiciels dans le monde vont être obligés d'en acheter. Ce qui voudrait dire que ça va encore monter, malgré la valorisation de départ totalement délirante. C'est le paradoxe magnifique des indices pondérés par capitalisation. Et pendant que Musk devenait trillionnaire, Anthropic vivait un week-end un petit peu différent. Anthropic, le concurrent d'OpenAI, celui qui fait Claude, celui qui prépare son IPO à 1800 milliards, a dû retirer en urgence ses deux modèles les plus avancés, Fable 5 et Mythos 5, sur ordre du gouvernement américain. La raison officielle, risque de sécurité nationale. Des chercheurs auraient signalé que ces modèles pouvaient être jailbreakés, manipulés pour révéler des informations sur des vulnérabilités de sécurité. La décision gouvernementale suspend l'accès à ces modèles pour tous les ressortissants étrangers, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur des États-Unis, y compris les employés d'Anthropic qui sont des ressortissants étrangers, ce qui rend la chose techniquement très, très compliquée à appliquer. Donc, ils ont coupé l'accès pour tout le monde, tout simplement. Ce qui se passe là, c'est plus important que ça en a l'air, parce que l'IA américaine est devenue une question de sécurité nationale. C'est plus un produit tech que vous achetez sur un abonnement, c'est une ressource stratégique que le gouvernement peut interdire d'exportation du jour au lendemain par décret. Et les valorisations de 1800 milliards, que ce soit Anthropic ou OpenAI, reposent désormais aussi sur la bonne volonté de Washington. C'est un risque nouveau qu'on ne connaissait pas et personne n'en parle parce que les futurs sont en hausse quand même de plus de 1%. Donc voilà où on en est ce matin. Un accord de paix qui existe, qui n'est pas encore signé, dont les deux parties racontent des versions contradictoires et dont les points les plus importants, le nucléaire, les missiles, les proxys, les terroristes, sont repoussés à dans 60 jours avec Netanyahou qui attend avec impatience la première occasion de rallumer le feu. Mardi, la Banque du Japon va lever ses taux à 1%, ce sera les plus élevés depuis 1995. Mercredi, Kevin Warsh parle pour la première fois comme président de la Fed et personne ne sait ce qu'il va vraiment dire. Vendredi, la signature à Genève et si tout se passe bien, et c'est un grand si, les premiers tankers commenceront à traverser le détroit d'Ormuz. Le pétrole à 80 $ ce matin, c'est le marché qui prie pour que tout ça soit vrai. L'or à 4 300 $ en hausse, c'est le marché qui ne parie pas tout sur la même case. Et moi, je suis là à vous expliquer pourquoi l'or vous dit la vérité quand les futurs vous racontent une toute autre histoire. C'est un accord de paix, c'est une très bonne nouvelle, c'est vrai, mais lisez les petits caractères en bas du contrat avant de crier victoire trop vite. Et on se retrouve donc demain, même heure, même endroit, pour voir si la signature tient toujours. En attendant, on s'abonne, on active la cloche, on like la vidéo, on la partage et on la commente, histoire de stimuler l'algo maison. Très bonne journée à tous et à demain. Allez, bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.